Et notre tête au carré qui va ouvrir grand ses oreilles cet après-midi pour écouter les sons du monde, une plongée inouïe, vous allez le voir, dans les paysages sonores de la nature. Un homme en a fait sa spécialité il y a plus de 40 ans, c'est le bioacousticien et musicien Bernie Krause, un travail unique de recueil d'ambiance acoustique qui témoigne, vous le verrez, de la diversité des environnements de la planète. La Fondation Cartier présente jusqu'au 8 janvier à Paris le Grand Orchestre des Animaux, une exposition inspirée par l'œuvre de Bernie Krause, qui est l'invité exceptionnel cet après-midi de l'émission avec le bioacousticien français Thierry Aubin. J'attendais maintenant vos messages et vos questions sur cette science donc de la bioacoustique sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, le pôle Nord qui connaît une vague de chaleur exceptionnelle.
Oui, la banquise de l'Arctique est chaque année de plus en plus fine, mais 2016 bat tous les records avec un mois de novembre 12 degrés plus chaud que la normale. Du jamais vu et des explications dans un instant avec la glaciologue Catherine Ritz.
Stéphanie Texier réalise cette émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le Grand Orchestre des Animaux et mes invités cet après-midi, les bioacousticiens Bernie Krause et Thierry Aubin. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bernie Krause, la Fondation Cartier se fait donc l'écho de ce travail extraordinaire de collecte de sons que vous avez réalisé depuis près de 50 ans dans tous les milieux de la planète, à l'heure où la biodiversité s'effondre dans beaucoup d'endroits. C'est aussi une perte de diversité sonore du monde que vous avez observée et que vous entendez aussi dans votre casque.
Well, the problem is in my archive that I've collected over the last 50 years.
Il y a plus de 50 ans de son.
Almost 50% of everything that I've recorded is from habitats that no longer exist. 50% de ce que j'ai enregistré
vient d'habitats qui n'existent plus, ou alors ils sont tout à fait silencieux désormais, ou alors ils ont été changés tellement profondément par la main humaine que le son ne peut plus être entendu. Le paysage sonore n'est plus audible.
Voilà, donc un témoignage et une mémoire sonore extrêmement importante. Thierry Aubin, vous êtes bioacousticien au CNRS. C'est la première fois que vous rencontrez Bernie Krause?
Oui, tout à fait, oui.
Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet homme dans votre discipline? Parce qu'on peut dire que c'est l'inventeur, au fond, de votre science. Hein.
Ah oui, en quelque sorte, oui. C'est le premier, en tout cas, qui a songé à étudier les paysages sonores dans leur globalité. Alors que, plutôt en bioacoustique, on avait coutume d'analyser des individus.
Ouais. On parlera de votre voyage récent au Pérou, qui vous a emmené sur la trace d'oiseaux, sur lesquels vous avez posé des capteurs, justement. Et puis, évidemment, de cette discipline tout à fait particulière. On se retrouve dans un instant pour cette discussion avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et la machine climatique a réchauffé l'Arctique qui semble sur le point de s'emballer. Les records de température au pôle Nord explosent les uns après les autres et la glace qui fond comme jamais.
Quel avenir pour cet ours blanc sur cette banquise morcelée. En seulement 30 ans, plusieurs millions de kilomètres carrés de glace ont disparu. La surface de la banquise a reculé de 38%. Et ce phénomène s'accélère.
Et selon des météorologues danois, le mois de novembre a été 12 degrés plus chaud que les normales de saison. Un peu comme s'il faisait 30 degrés à Paris en plein mois de décembre. Bonjour Catherine Ritz.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement à Grenoble. Et puis en studio avec nous, Lorraine Lavocat. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour notre partenaire, le magazine Reporter.net. Lorraine, l'année 2016, c'est vraiment l'année de tous les records dans le Grand Nord.
Et oui. Triste record d'ailleurs. Mi-novembre, la température en Arctique a atteint donc un pic à moins 5 degrés Celsius, alors que la moyenne habituelle est plutôt aux alentours de moins 25 degrés. Donc ça fait 20 degrés de différence quand même. Donc comme vous le disiez, c'est un peu comme si, actuellement, sur votre thermomètre, vous voyez 30 degrés Celsius en plein mois de novembre. Donc, depuis le début de l'automne, le mercure est anormalement haut en Arctique. D'après l'Institut météorologique danois, les températures sont de 9 à 12 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et conséquence prévisible, quand le thermomètre grimpe, la banquise, elle, diminue. La glace de mer recouvre aujourd'hui environ 8,8 millions de kilomètres carrés, soit un tiers de moins que d'habitude. À la fin de l'été, l'étendue de la banquise était déjà la deuxième plus faible jamais enregistrée après celle de 2012, soit 4,14 millions de kilomètres carrés. Bref, au pôle Nord, c'est quasiment du jamais vu depuis le début des relevés satellitaires en 1979.
Catherine Ritz, on commence à s'habituer à battre des records de température, mais qu'est-ce qui explique que la situation s'emballe plus fort en Arctique qu'ailleurs ?
Eh bien, il y a de toute façon une amplification des variations climatiques au niveau des pôles, et en particulier au niveau de l'Arctique, c'est-à-dire que quand on a un réchauffement global de 1 degré, on va avoir plus de réchauffement au niveau de l'Arctique. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis, un deuxième point, c'est qu'il y a, et c'est peut-être ceux qui participent à cette amplification, il y a des phénomènes qui permettent de s'emballer, et un certain nombre d'entre eux sont liés à la glace de mer, effectivement.
Alors, quand on parle d'emballement, on peut dire aussi cercle vicieux. Quels sont les phénomènes en jeu dans ce genre d'emballement ?
Eh bien, par exemple, quand pendant un été ou en fin d'automne, comme maintenant, la glace de mer disparaît, elle va se reformer pendant l'hiver, mais du coup, ça va être une glace relativement fine, facile à disperser, facile à fondre au printemps prochain ou à l'été prochain. Donc, c'est une espèce de mémoire de cette fonte en été qui va perdurer d'une année sur l'autre.
Est-ce qu'il existe un scénario où les glaces libres de l'Arctique ne disparaissent pas d'ici 50 ou 100 ans ?
Je ne sais pas. Pas exactement, peut-être les scénarios où on limite la température à 1,5 degré, mais pas les scénarios moyens.
Oui, donc la plupart des scénarios sont quand même très pessimistes. Lorraine Lavocat, une question justement pour
Catherine
Ritz. Oui, bien
sûr, même avec un scénario de réchauffement à 2 degrés, il y a certains chercheurs qui disent que dès 2030, l'océan Arctique sera en fait libre de glace l'été, ouais, et que l'hiver, on n'aura plus qu'une toute petite fine couche de glace, de banquise. Est-ce que vous, Catherine Ritz, ça vous inquiète ? Quelles seraient les conséquences pour nous, en fait ?
Eh bien, en fait, la glace de mer joue pas mal de rôle dans le système climatique, en particulier parce que comme elle est couverte de neige, elle réfléchit la lumière, enfin l'énergie qui vient du soleil. Donc, en fait, moins il y a de glace de mer, plus l'océan se réchauffe dessous. C'est aussi un espèce de tampon entre l'atmosphère et l'océan. S'il n'y a pas de glace de mer, il y a beaucoup plus d'échanges entre l'atmosphère et l'océan, et ça peut changer. Ces deux choses à la fois, ça peut changer la circulation océanique, la circulation atmosphérique et faire pas mal de dégâts. En particulier, tout proche, il y a le Groenland qui est une masse de glace qui est elle aussi sensible aux variations climatiques et qui pourrait être en second affecté par la disparition de la glace de mer.
En tout cas, il y a évidemment, Catherine Ritz, des enjeux économiques absolument énormes, hein, avec la libération de ce passage.
Oui, bien sûr, parce que les passages du cargo entre l'Europe et, enfin, ou entre l'Europe et l'Asie, par exemple, est beaucoup plus rapide par le passage du Nord-Est.
D'où des économies, évidemment, de carburant pour tout le monde, hein. Et un gain de temps.
Après, est-ce que la société va se débrouiller pour faire que ça soit des économies de carburant, ou est-ce qu'elle va se débrouiller pour qu'il y ait plus d'échanges et donc que ça soit à dépenses énergétiques constantes, je ne sais pas.
Vous en avez parlé. Est-ce que le passage des bateaux est une menace pour les glaces terrestres, cette fois-ci du Groenland, par exemple ?
Pour les glaces, ce que va faire le passage des bateaux, c'est éventuellement polluer un petit peu l'atmosphère arctique. Et éventuellement changer un petit peu l'albédo justement de la neige.
Qu'est-ce que c'est l'albédo ?
Alors l'albédo, c'est la capacité à réfléchir de la neige. S'il y a de la suie par exemple qui tombe sur de la neige, elle va devenir plus facile à fondre.
Je crois que Bernie Krause voulait réagir à ce sujet, on l'écoute.
Est-ce que vous avez enregistré des sons en Arctique justement, Bernie Krause ? Est-ce que vous avez enregistré les changements climatiques justement aussi ?
Oui, c'est très important de savoir que le climat change tellement rapidement dans l'Arctique que lorsque nous y sommes allés en 2006, on ne pouvait pas atterrir sur la toundra. En beaucoup d'endroits où on pensait atterrir, c'était plus possible. C'était au début du mois de juin, parce que la toundra était déjà en train de fondre. Et par-dessus cela, une des choses que nous avons notées dans la vie sauvage en Alaska, c'est que c'est un endroit toujours extrêmement sauvage pour l'instant. On s'est rendu compte que les oiseaux qui n'étaient jamais très loin au nord de certaines villes du sud, eh bien, avaient migré vers le nord, la partie la plus au nord de l'Arctique. Et en fait, les Amérindiens qui habitent là-bas n'avaient même pas de nom pour ces oiseaux.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, pour Catherine Ritz. Est-ce que la disparition de la banquise peut avoir un impact sur les glaces terrestres et leur disparition, elles aussi?
Eh bien, si la disparition de la banquise participe au réchauffement ou participe à l'amplification polaire, oui, parce que d'autant plus que ça se passe en été, et comme c'est l'été que les calottes polaires, enfin que le Groenland est le plus sensible, effectivement, ça pourrait augmenter la fonte à la surface du Groenland et mettre en danger le Groenland encore plus qu'il n'est dans les prévisions.
Juste une dernière question. Quelle quantité de glace et d'eau représente la glace contenue dans le Groenland?
Alors, la glace totale contenue dans le Groenland, c'est l'équivalent de 6 ou 7 mètres de niveau des mers. Mais ça mettrait quand même des millénaires à fondre. Pour vous donner une idée, en ce moment, la fonte du Groenland, le déséquilibre du Groenland, c'est un peu moins d'un millimètre par an de montée du niveau des mers.
Est-ce qu'il y a un seuil de température au-delà duquel on est sûr que la fonte sera irrémédiable?
Moi je dirais 5 degrés. Les scientifiques ont une gamme en fait entre, mais certains disent 3 degrés, d'autres disent 5 degrés, mais je pense que 5 degrés, on commence déjà à tomber dans quelque chose qui pourrait être irréversible.
Merci en tout cas pour votre éclairage, même s'il est peu réjouissant, Catherine Ritz. Et puis Lorraine Lavocat, on retrouve évidemment ces informations sur le site reporter.net. Merci beaucoup à vous et Axel. À demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les chiens ont une mémoire épisodique, mais elle est très très courte. Des chercheurs hongrois pensent avoir démontré ce que les comportementalistes cherchent depuis des années, à savoir si nos amis les chiens se souviennent des événements vécus dans leur contexte. Et bien, grâce à un entraînement particulier de 17 chiens avec leur maître, ils estiment aujourd'hui que nos amis à quatre pattes peuvent contextualiser leurs souvenirs pendant un maximum d'une heure, après quoi toute mémoire épisodique s'efface. C'est une particularité qui nous fait souvent penser que le chien ne vit que dans l'instant présent, c'est donc presque vrai. Un pas technologique de plus vers des êtres vivants siliconés. Pour la première fois, des ingénieurs du laboratoire Caltech en Californie sont parvenus à créer un organisme vivant capable de métaboliser le silicone, une molécule inorganique formée de chaînes de silice et d'oxygène. Les protéines siliconées, appelées aussi organosilicones, sont très souvent utilisées dans l'industrie et pour l'instant n'étaient produites que par des réactions chimiques complexes et polluantes. Le fait que des êtres vivants soient capables de s'adapter à de nouveaux éléments est à la fois prometteur pour la bio-ingénierie, mais aussi une preuve fondamentale très forte que d'autres formes de vie seraient possibles au-delà du carbone. Le silicone est une des pistes envisagées par les exobiologistes, justement, pour la vie sur d'autres planètes. Mais où se trouve donc Thomas Pesquet pendant que l'astronaute français est dans l'ISS? De plus en plus de regards se lèvent la nuit pour voir passer la station au milieu des étoiles. Et bien, pour ne pas manquer le satellite géant, troisième objet le plus brillant observable depuis la Terre, Science et Avenir vous propose une sélection des applications pour téléphone qui localisent en temps réel la station. Avec ses 16 tours autour de la Terre par jour, de nombreuses occasions se présentent pour voir donc l'ISS. Un lien vers l'article et les applications est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, le grand orchestre des animaux, c'est donc le dossier cet après-midi avec un invité exceptionnel, le bioacousticien Bernie Crose et son confrère français Thierry Aubin, avec vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Hard to find the flip.
temperature's well past 102. Put the guns away or we're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw.
Et de la voix de Norah Jones sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
On va vous raconter une belle histoire sonore cet après-midi avec le Grand Orchestre des Animaux. C'est d'abord une exposition visuelle et sonore qui est à découvrir en ce moment à la Fondation Cartier à Paris et qui est donc inspirée par l'œuvre du bioacousticien Bernie Cross qui est notre invité cet après-midi avec le français Thierry Aubin. Et bien sûr vos messages qui arrivent déjà nombreux sur franceinter.fr et le mot-clé, la tag. Bernie Cross, il faut d'abord raconter aux auditeurs votre parcours avant votre découverte donc d'une discipline scientifique, la bioacoustique que vous avez inventée. Avant de vous passionner pour l'enregistrement des animaux, des sons de la nature. Vous avez travaillé dans les années 60-70 comme musicien et acousticien à Los Angeles. Parmi les artistes avec lesquels vous avez collaboré, on peut citer les Doors, Van Morrison et puis votre travail de compositeur également sur des musiques de films comme Apocalypse Now. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes retrouvé plongé dans la nature avec un casque sur les oreilles ?
J'ai commencé comme musicien parce que je ne vois pas très bien. Donc, ma relation avec le monde, c'est le son. Et le résultat, j'ai appris à explorer le monde du point de vue particulier du son. Et ce qui s'est passé, c'est que, à un certain point, quand j'étais dans la musique à Hollywood, on avait introduit les synthétiseurs dans la pop musique et dans le cinéma au milieu des années 60. Et non. Le premier album s'appelait In a Wild Sanctuary, dans un sanctuaire sauvage. Et c'était pour explorer l'écologie. C'était le premier album sur le thème de l'écologie. Et le premier album qui utilisait des sons naturels comme un composant de l'orchestration. Donc il fallait que j'aille sur le terrain et je devais enregistrer. C'était en 1968. Et les enregistreurs portables venaient de sortir sur le marché. Et moi, j'ai eu un des premiers enregistreurs stéréo et bon un casque et je suis allé sur le terrain pour enregistrer pour la première fois. Ce que j'ai pas compris, c'est que c'était octobre et il n'y avait pas d'oiseaux dans le coin. Donc c'était vraiment très très tranquille, très silencieux. Mais quand j'ai mis l'enregistreur, quand j'ai fait rejouer ce que j'ai enregistré et que j'ai entendu le son de cet espace, j'ai dit c'est merveilleux, c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie.
Qu'est-ce que ça fait dans votre tête ? Parce que ça, vous le racontez justement à la Fondation Cartier, cette impression d'entendre les sons dans le casque.
Entendre les sons dans un casque, c'était très relaxant. Parce que, vous savez, j'ai un problème d'attention, d'un déficit de l'attention. Je ne peux pas concentrer longtemps. C'est très très difficile pour moi de me concentrer sur un seul sujet. Et je suis très dyslexique. Donc quand j'ai entendu les premiers paysages sonores pour la première fois, ça m'a relaxé. Ça m'a fait me sentir concentré, faire partie du monde vivant. Il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux autour. Et donc c'était tellement engageant pour moi, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Si je peux, imaginer comment le faire. Ça m'a pris 10 ans. Parce qu'après Apocalypse Now, après avoir travaillé sur ce film, on m'a vidé 5 fois ou 6 fois. Ce n'était pas un problème, parce que chaque fois, on me réengageait et on doublait mon salaire. Donc, Quand j'ai terminé avec ça, j'ai décidé que je ne voulais plus faire ce genre de boulot. Je voulais être sur le terrain. Donc je suis retourné à l'école, j'ai fait un doctorat en bioacoustique et depuis, je ne fais qu'enregistrer.
Oui. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous nous racontez, Bernie Cross, hein, cette sensation que vous avez ressentie justement au moment où vous entendiez ces sons de la nature dans votre casque, ce bien-être, cette sérénité, ben c'est exactement ce que vous nous permettez de vivre aujourd'hui au travers donc de cette exposition à la Fondation Cartier, parce qu'il y a votre œuvre justement qui fait l'objet d'une salle entière au sous-sol dans laquelle on est plongé justement uniquement dans cet univers sonore. On est installé, allongé par terre, la tête posée sur des coussins, et là tout d'un coup, je peux vraiment vous le dire parce que je suis arrivé vendredi, j'ai vu l'exposition, j'étais dans un état de fatigue très avancé, et tout d'un coup il y a une espèce de magie qui opère et qui fait qu'on se sent régénéré uniquement en entendant les sons de la nature. C'est absolument extraordinaire.
Mais c'est la même chose pour moi. Même à l'expo, quand j'y rentre, quand je rentre dans cette pièce et j'entends à nouveau ces sons, ça fait remonter des mémoires du moment où j'étais sur le terrain et où je travaillais avec ces animaux. Et pour moi, à nouveau, c'est la partie la plus enthousiasmante de mon travail. Je me sens tellement relaxé quand je fais ça. Je peux passer des heures dans cette pièce. Une des choses très importantes avec cette exposition, par exemple, la plupart des visiteurs vont passer les 15-20 secondes devant chaque composante des expositions en général. Et là, dans notre exposition, les gens passent beaucoup plus de temps. Ils passent beaucoup de temps. Et voilà. Et donc ça passe à travers et ça touche les gens.
Oui, je le confirme. Je suis resté 45 minutes devant justement votre travail, là, juste dans cette salle. Je me suis même endormi tellement on se sent bien à un moment. Thierry Aubin, vous allez voir l'exposition, vous ne l'avez pas vue encore. Racontez-nous justement en quelques mots ce que représente Bernie Cross dans votre discipline, la bioacoustique, parce que je crois que vous étiez très ému de pouvoir le rencontrer aujourd'hui au micro.
Oui, naturellement. C'est simplement parce que c'est le premier à avoir envisagé d'étudier dans son ensemble un univers acoustique, une ambiance acoustique, alors que, je vous dis, dans les laboratoires de bioacoustique, on se focalise plutôt sur une espèce, on essaye plutôt d'isoler cette espèce de son environnement. Et de plus en plus, la tendance revient vers Bernie, finalement, puisque maintenant, il y a de plus en plus de laboratoires qui travaillent sur comment étudier la biodiversité, comment étudier tout un univers sonore, un paysage sonore, une écologie sonore.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, exactement, en tant que bioacousticien et directeur de recherche au CNRS? Vous êtes responsable d'une équipe communication acoustique à Paris Sud. C'est quoi, au fond, le cœur de votre travail?
Le cœur de notre travail, c'est essentiellement de décoder, de voir comment les animaux codent leur information acoustique, naturellement.
Ça veut dire quoi, coder une information?
C'est-à-dire, je dirais, quelle grammaire, entre guillemets, quel langage ils utilisent, et c'est ça qu'on cherche à comprendre en décortiquant, en interrogeant les animaux, en modifiant des sons et en leur posant des questions.
Vous posez des questions aux animaux?
Mais bien sûr, c'est eux qui nous donnent la clé de leur langage, en quelque sorte. Hein. On modifie pas à pas des paramètres. Et on demande à chaque fois, si je modifie ça, est-ce que tu me comprends toujours? Et c'est l'animal qui nous répond.
Bernie Cross.
Vous savez, le paysage sonore, c'est un récit des lieux. Ça nous raconte une histoire. Et cette histoire est un dialogue cohérent entre tous les animaux qui sont concentrés dans un certain habitat. Et ce qui est très important, il faut garder à l'esprit que ces sons-là, en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à les enregistrer tel que je le fais moi, de façon collective, c'est parce que si on tente de les comprendre individuellement, comme Thierry vient de le dire, Ce qui se produit, c'est que c'est comme un peu prendre un violoniste et l'isoler au sein de l'orchestre et n'entendre que ce qu'il joue, lui, ce violoniste. Tenter de déchiffrer la magie de la cinquième de Beethoven en entendant seulement qu'un seul violon. Et c'est ce qu'on a fait en science depuis le début des 100 années de la bioacoustique. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre qu'il faut écouter tout ensemble de façon holistique.
Oui. Alors là, nous sommes plongés justement dans un environnement particulier, celui des Crescent Meadow. C'est d'ailleurs extrait d'un disque qu'on peut retrouver dans le catalogue de l'exposition d'Ernie Krauss. Alors qu'est-ce qu'on entend là en ce moment ? Crescent Meadow.
Well, we're definitely hearing crows, and we're
Il y a certainement des corneilles.
Yeah. And we're hearing a habitat in the Sierra Nevada mountains.
Qui est dans les montagnes de la Sierra Nevada.
And it's a early morning sound.
Et c'est un son de la matinée, très tôt le matin.
And it's absolutely magical.
Et c'est totalement magique.
Because everything fits together.
Parce que tout fonctionne ensemble.
Vous croyez à l'aspect thérapeutique, justement, de ces sons de la nature ? On parlait du bien-être qu'on éprouvait en écoutant, justement, ces oiseaux en particulier. Ah, en voilà un autre qui arrive. Qu'est-ce que c'est ?
On entend un coyote, enfin, c'est pas l'oiseau, mais on entend l'animal, le coyote.
And there is a pileated woodpecker.
Et là, il y a un pivert. L'interprète dit que j'ai les gros yeux du bioacousticien qui est assis en face de moi. Et ce qu'on entend là, c'est que ce moment merveilleux du matin, lorsque le soleil se lève au-dessus des montagnes qui font 2200 mètres, et c'est une vallée, on est dans une vallée au milieu de la Sierra Nevada qui est à l'est de San Francisco.
Voilà, pour la description de cet environnement, Thierry Aubin.
Oui, ça me fait penser à une expérience que l'on a faite où on parlait des chants du matin, de l'éveil progressif des animaux. Et on s'était amusé avec un collègue du muséum, Jérôme Sueur, à essayer de réveiller plus tôt les oiseaux.
Ah oui.
Et donc on a diffusé des chants d'une mésange qui se réveille normalement un peu plus tard.
Oui.
Et ça a enchaîné tout le monde, les merles, puis les rouges-gorges,
etc. C'est foutu bazar, quoi, finalement.
À se réveiller 3-4 minutes plus tôt.
Ouais.
Et donc, on voit bien que c'est un orchestre qui progressivement se met en marche.
Et c'est justement le thème de cette exposition, à voir jusqu'au 8 janvier 2017 à Paris, à la Fondation Cartier, le Grand Orchestre des Animaux.
Il avait trouvé sa place, assis au chaud tout au fond de la classe, assoupi derrière son livre, lui qui se voyait vivre une autre histoire. Il faisait le minimum, pendant qu'on se cherchait un uniforme, les mêmes chaussures et le même blouson, comme les grandes gueules de la pension. Mais si on pleurait à la maison, dès qu'un professeur haussait le ton, lui se foutait de l'autorité, de leurs conseils avisés. Quand il lui disait: si tu veux réussir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, oui tu dois réagir. Contrôle ta samba. Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Deux années au pensionnat, agribouillé dans son agenda, j'étais pas assez intelligent pour le trouver intéressant. Puis le bac et les bancs de la fac, pour un boulot pourri à la Fnac, un petit chef qui pensait changer le monde, a donné des ordres à la ronde. Et qui lui disait: si tu veux t'enrichir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, ou bien sinon je te vire. Contrôle ta samba. Mais la samba, ça ne se contrôle pas. À 2000 bornes du premier métro, je vois un mec qui vit sa vie comme il en a envie et ça me fait rêver. Lui qui regardait les avions passer quand j'avais peur de me faire engueuler, avait déjà son projet en tête en regardant par la fenêtre. Il se disait, j'ai d'autres désirs,
contrôle ta samba,
que celui d'obéir.
Contrôle ta samba,
un jour je vais partir.
Contrôle ta samba,
car la samba, ça ne se contrôle pas.
Contrôle ta samba, 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 contrôle ta samba.
Séverin et Catherine, contrôle ta samba sur France Inter. Dans la tête au carré, nous parlons de cette exposition à voir en ce moment à la Fondation Cartier à Paris, le Grand Orchestre des Animaux. Si vous ne pouvez pas venir à Paris, vous avez quand même un site internet, legrandorchestredesanimaux.com, sur lequel vous pouvez retrouver une partie de l'exposition avec les sons à entendre. Et puis demain, si vous êtes là, ne manquez pas la conversation entre Bernie Cross et Jean-Claude Amezen. Ce sera donc entre 20h et 21h30 dans le cadre de la Nuit des Animaux. Bernie Cross, vous publiez également Chansons Animales et Cacophonie Humaine. C'est un manifeste pour la sauvegarde des paysages sonores naturels. C'est publié aux éditions Actes Sud avec la Fondation Cartier. Et vous y racontez justement toute votre discipline, votre science. On peut parler d'une écologie des paysages sonores, au fond. C'est ça, hein, ce que vous faites.
Hein. Yes, it is.
Tout à fait.
And what's really interesting about it is,
ce qui est très intéressant, c'est que, une fois de plus, les paysages sonores, ça nous permet de regarder véritablement au sein de l'écologie ce qui se passe. Et aucune autre façon de faire ne nous permet de le faire. Vous savez, j'étais très influencé par une phrase du Petit Prince, l'idée que ce qui est essentiel est invisible à l'œil.
And this is really important.
C'est ce que dit le renard dans Le Petit Prince. Et ce que le paysage sonore nous dit, c'est que ça informe ce qui se passe sur la religion. Lorsqu'on est, par exemple, plus près du monde naturel, on écoute les sons de la nature et on y pense comme étant des esprits. C'est l'origine de la religion. On écoute, on entend les liens entre les sons des oiseaux, les mélodies et leur interaction entre oiseaux, et on a créé la musique parce qu'on imite. Ça informe tellement d'idées de la philosophie, de la littérature humaine. Tout cela se mêle dans le paysage sonore à travers cette narration.
Voilà, donc près de 50 années de travail, 5000 heures d'enregistrement. On parle beaucoup des oiseaux, Thierry Aubin. C'est un peu l'animal privilégié dans ce domaine de la bioacoustique ou pas?
Ah oui, c'est un peu la souris blanche de la boucherie.
C'est oui. Ça, oui.
Oui,
votre animal modèle.
Oui, parce que ce sont des virtuoses, parce que certains oiseaux apprennent, ne savent pas, entre guillemets, parler naturellement. Ils ont besoin d'un tuteur pour apprendre. Donc il y a beaucoup d'analogies avec l'être humain. Il y a aussi tout le développement, comment se met en place leur vocalisation, qui ressemble à la mise en place du langage chez l'être humain. Donc ça en a fait des modèles certains. Oui.
Jean-Pierre demande sur franceinter.fr si les oiseaux ont des accents, en tout cas, de toutes les espèces. On en avait parlé, je me souviens, dans cette émission avec vous, d'ailleurs.
Oui, 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 tout à fait. Mais bien sûr, les oiseaux ont des accents, tout simplement parce qu'ils apprennent, 40 à 50% des oiseaux apprennent leur vocalisation ou certaines de leurs vocalisations, et donc il y a une transmission de père en fils, par exemple, et il y a forcément des dérives d'apprentissage dans des régions différentes, et on aboutit ainsi à ce qu'on appelle des dialectes régionaux qui peuvent être vraiment conduire à des chants différents et même à une spéciation des
Vous les reconnaissez, ces accents, dans votre casque aussi, Bernie Cross?
Oh, sure, because there's
bien
a
sûr,
particular bird in the
parce qu'il y a un oiseau aux États-Unis qui s'appelle l'hirondelle à couronne blanche. C'est un oiseau intéressant parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ont un accent différent tous les 100 mètres. À 100 mètres de distance, les oiseaux ont un accent différent. Et ça va du Mexique jusqu'à l'Alaska, imaginez un peu. Plusieurs milliers de kilomètres. Et chaque habitat, en raison de la biophonie, la géophonie et du bruit humain qui est créé, eh bien, à ce moment-là, différents habitats créent le fait que le paysage sonore est différent et les oiseaux doivent s'ajuster pour pouvoir se développer. Parce que leur vie dépend de leur voix. Mais il faut aussi que je souligne que les oiseaux ne sont qu'un composant de toute cette structure du paysage sonore. On a enregistré des choses aussi petites, minuscules que des virus.
Des virus, c'est vrai ça? Ah bon? Le son des virus, mais ça ressemble à quoi?
Et nous pensons que chaque organisme vivant produit du son. Certainement tous ceux qu'on a pu enregistrer, tout depuis le plancton, depuis des cellules, des animaux monocellulaires, jusqu'à des gros poissons, on a des enregistrements de tout type d'animaux.
Alors justement, on voit aussi toute une partie de l'exposition à la Fondation Cartier consacrée au plancton, avec le travail de la goélette Tara, justement. Donc là, il y a énormément de choses associées au son aussi qui sont passionnantes. Et puis on a accueilli au tout début de l'expo, alors par une chose plus visuelle qui est absolument irrésistible, ce sont des vidéos d'oiseaux dont on voit toutes les parades amoureuses pour séduire les femelles. Et alors là, on voit ce qui se passe dans le monde animal, c'est qu'ils sont absolument pas économes d'effets spéciaux, on va dire, pour séduire.
Of course they do. They have the, and they learn.
Ils apprennent très tôt à gérer leur territoire grâce à leur voix. Parmi d'autres choses, bien entendu. Mais ils recherchent aussi des partenaires.
Just a place in the vocal choir,
une place dans le chœur vocal aussi. Et ce qui est important dans le travail de Thierry, mon travail et beaucoup d'autres, c'est que ce terrain est tellement nouveau. Chaque fois que l'on va sur le terrain, on apprend tout un lexique nouveau de matériaux sur lesquels on peut écrire, sur lesquels on peut publier. Mais je crois que, en fait, il y a du travail pour plusieurs générations.
Absolument. Et on voit surtout les changements environnementaux aussi. Lorsque l'homme passe sur un terrain particulier, et bien justement, au niveau du son, ça s'entend tout de suite parce que les espèces animales évoluent. Thierry Aubin, vous revenez du Pérou, sur une île de Lima, au large de Lima. Vous avez équipé des oiseaux marins avec des enregistreurs. Dans quel but alors ?
Allez, c'est dans le. En fait, on ne connaît absolument pas ces oiseaux marins. Ce sont des fous, des sternes, ça peut être des manchots. Passent 80% de leur temps en mer et on ne sait absolument pas ce qu'ils font. Apparemment, ils utilisent beaucoup les vocalisations et on voulait savoir ce qu'ils font. Donc maintenant, avec les miniaturisations des appareils, on est capable d'équiper des oiseaux avec tout un tas d'appareils, une caméra, un GPS, un enregistreur sonore, pour vraiment suivre en temps réel toutes leurs interactions.
Donc vous leur mettez des sacs à dos maintenant carrément, non?
Parce c'est pas des sacs à dos, non, c'est fixé par des fois, tout banalement, une espèce de scotch, d'adhésif, simplement, parce qu'il ne faut pas blesser les oiseaux, ni les gêner, surtout dans leur mouvement.
Bernie Cross, on va justement entendre le bruit de l'océan. Vous racontez justement à la Fondation Cartier à quel point ce milieu est compliqué à enregistrer et que là, vous avez besoin de recourir justement à votre travail en studio, chez vous.
Ce sont des enregistrements faits avec un hydrophone, c'est-à-dire un micro sous-marin. Et les sons que l'on entend sont des baleines à bosse et aussi des poissons et des crustacés. Et donc, je pense que j'ai peut-être dans cette expo un collage de 30 ou 40 poissons différents. Les gens ne pensent pas aux poissons comme faisant du bruit ou du son, mais ils font, ils produisent du son. Et c'est un exemple merveilleux de ce qui se produit et à quel point le son est merveilleux et beau au sein de l'océan.
Il y a une question de Jean-Paul, justement, il nous dit ceci. Les cétacés ne sont-ils pas désorientés par les bruits divers émis par les hommes? C'est un problème dont on parle aussi de temps en temps dans cette émission.
Oui,
les hommes ont un impact, un effet terrible sur les sons. Les sons qui sont émis par les bruits qui sont émis par les grands bateaux, qui sont très très nombreux sur les océans, causent aux baleines causent des maladies aux baleines, et les baleines s'échouent. Et les exercices de la marine, des différentes marines, ces expériences ont des effets aussi sur non seulement sur les poissons, mais aussi sur les mammifères marins. Donc, une des choses qu'il faut faire, c'est trouver une façon de vivre en cohérence avec ces créatures. Sans ça, elles ne survivront pas. On perd beaucoup d'espèces par la pollution aussi et par le réchauffement climatique, évidemment.
Bernie Cross et Thierry Aubin sont donc bioacousticiens. Ils sont les invités de la Tête au Carré à l'occasion donc du Grand Orchestre des Animaux à voir en ce moment à la Fondation Cartier. Michel Zlotowski assure la traduction et on se retrouve dans un instant pour la suite. Don't cry of The Cure à l'instant.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Et le Grand Orchestre des Animaux jusqu'au 8 janvier donc à la Fondation Cartier. Bernie Cross et Thierry Aubin, acousticiens, sont mes invités cet après-midi. Nous repartons justement sur le terrain, Bernie Cross. Là, nous sommes au Brésil, dans la forêt amazonienne. Alors là, un milieu, on n'a pas une minute de silence là.
Non, it's always...
Non, il y a toujours du son, il y a toujours du son animal de toutes sortes. Et à un moment, le soir, ce que nous entendons en ce moment d'ailleurs, je traversais seul le sentier et je pouvais sentir l'odeur de quelque chose qui me suivait. Parce que l'odeur du jaguar est très très forte et il marque son sentier en dirait. Je ne pouvais pas l'entendre, je ne pouvais pas le voir. Je ne voulais pas mettre une torche lumineuse sur l'animal parce qu'il risquait de m'attaquer. Et finalement, je suis arrivé à un endroit que j'aime beaucoup et j'ai mis en place mon micro, mon enregistreur au milieu du sentier et j'avais le micro à peu près à 10 mètres de l'endroit où j'étais assis. Et soudain, ce jaguar est passé, est arrivé devant le micro et il a commencé à grogner, à feuler. C'était comme vraiment une séance d'enregistrement extraordinaire, ça ne pouvait pas être plus parfait que ça. Et je crois qu'il arrive dans quelques secondes.
Alors, je ne sais pas si on l'a dans cet enregistrement en particulier. En tous les cas, on l'entend à la Fondation Cartier. Et j'avoue que c'est extrêmement impressionnant parce qu'on entend le souffle de l'animal et on vous imagine évidemment au milieu de cette nature. On pourrait entendre des arbres craquer aussi parce que la végétation est très très présente en forêt amazonienne, hein, Bernie Krause.
Well, this jaguar was... Certainly aware
that I was there. Était vraiment conscient de ma présence. Pour moi, ça ne faisait pas très peur parce que je ne me sentais pas menacé. L'animal ne faisait pas de mouvement menaçant. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais entendre sa voix. Il voulait simplement être enregistré.
Ouais. Donc vos peurs ne sont plus les mêmes depuis les années 60, hein, parce que vous dites à quel point vous avez eu peur quand vous avez commencé votre tout premier enregistrement en Californie. Thierry Aubin, communiquer en forêt tropicale, c'est une gageure hein, pour les espèces animales hein.
Oui, c'est une gageure, mais justement, pour aller dans le sens de Bernie, chaque animal, en fait, essaye de trouver sa partition. C'est-à-dire que... Les animaux vont faire soit ce qu'on appelle de l'évitement temporel, c'est-à-dire qu'ils vont chanter et produire des vocalisations à un moment où d'autres sont silencieux, donc se caler dans des fenêtres de silence, soit se mettre sur d'autres plages de fréquence. Et ça permet comme ça à cet orchestre de s'exprimer ensemble sans se masquer.
Ouais.
Et il y a aussi, ils sont confrontés au fait que dans une forêt tropicale, il y a des obstacles. Et c'est un challenge parce que toutes ces feuilles, ces troncs absorbent les sons. Et donc, ils vont essayer, tous ces animaux, de contrer cette absorption. Et un des moyens en acoustique, c'est par exemple d'envoyer des sons relativement graves. Parce qu'on passe les obstacles. La longueur d'onde est grande, enfin bon, et on passe les obstacles. Et vous avez comme ça des phénomènes de convergence sonore dans ces forêts tropicales où vous ne savez plus si c'est finalement... Tout le monde prend un peu aussi les mêmes gammes, même tessiture pour s'exprimer au loin. Donc vous savez plus si c'est un singe, une grenouille ou un oiseau qui chante.
Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'harmonie, voire de courtoisie entre les espèces pour que chacun trouve sa place au sein de cet orchestre?
Je n'irai pas jusqu'à la courtoisie.
Ou certains se marchent dessus.
Ils font au plus simple et au plus pratique pour eux, c'est-à-dire se faire entendre. Quand un autre chante, eh bien, on essaye de chanter après ou on essaye de chanter sur une autre partition, une autre fréquence.
Bernie Krause.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun de ces sons est unique à un endroit. Chaque paysage sonore correspond à un endroit unique. Et dans la forêt primitive, où la densité et la diversité sont énormes, eh bien, nous nous sommes rendus compte que chaque endroit avait sa propre voix, tout comme chacun d'entre nous a sa propre voix. Et moi, je peux vous dire simplement en écoutant un endroit, je peux quasiment vous dire à quel moment ça a été enregistré et de quel endroit ça vient. Est-ce que c'est une forêt tropicale en Amazonie ou est-ce que c'est en Afrique ou est-ce que c'est en Indonésie? Donc, après un certain temps, on commence à voir le sentiment, la connaissance de ces voix et on peut les replacer à chaque endroit du monde. Et c'est absolument incroyable à quel point cette information est très détaillée.
Ah ben justement, on va écouter un environnement sonore particulier, Bernie Krause, et vous allez nous dire où ça a été enregistré. Écoutons-le. Ha ha, blind test.
Big test, ok. Ouais. This is... This sounds like
on dirait
I'm going to guess it's Indonesia.
Je dirais que c'est l'Indonésie.
C'est l'Afrique.
It's Africa. Oh,
Zimbabwe.
Ah, this is Zimbabwe, of course. Ouais. Okay.
Ouais.
I blew it.
J'ai raté mon coup, là.
Mais c'est pas grave. C'est normal. L'erreur est humaine, Barney Krauss. Et parmi les 5000 heures d'enregistrement, c'est normal. Hein.
So much for that one.
Oui, absolument. Ce qui est très intéressant, en tout cas, à la Fondation Cartier, c'est la superposition que vous faites entre des sons, justement, que vous avez enregistrés à différentes époques pour voir comment l'environnement a évolué et surtout comment il a évolué après le passage de l'homme. Et ça, c'est absolument sidérant parce que vous nous faites découvrir vraiment ce qu'est l'écologie sonore à ce moment-là.
Yeah, one of the things that we do at Cartier.
Une des choses que nous avons mises en place à la Fondation Cartier, c'est de montrer l'avant et l'après, les impressions du son. Une des choses les plus importantes qu'on a mises en place, c'est c'est à 2500 mètres d'altitude dans la Sierra Nevada.
In 1988,
j'ai enregistré là-bas. J'ai enregistré un oiseau très particulier. Il y aurait un abattage sélectif des arbres. Les nouvelles sociétés forestières avaient une nouvelle approche de la forêt. Ils allaient couper deux ou trois arbres par-ci par-là. Et on nous a dit qu'il n'y aurait pas d'impact environnemental. Donc, en juillet 88, je suis allé enregistrer avant. Le son était très vivant, très vital. Il y avait beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes, beaucoup de grenouilles. Et j'y suis allé un an après, ils avaient juste coupé un arbre ici et là, à l'œil, c'est comme si rien n'avait changé, à la caméra, on ne voit pas le changement. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un changement radical. C'est comme si la forêt avait été entièrement abattue. Et c'est comme ça depuis. J'y suis retourné 15 fois depuis. Et la biophonie n'est pas revenue à la normale.
Ouais, et on voit très très bien cela avec les simulations en 3D, comme le son justement change une fois que l'homme est passé par là. Thierry Aubin, ça c'est absolument époustouflant. Hein.
Ah oui, bien sûr. Et on voit l'empreinte de l'homme partout, parce que moi, il m'est arrivé, par exemple, de travailler en forêt amazonienne brésilienne. On faisait des expériences de propagation et on était souvent obligé de s'interrompre parce que simplement un avion de ligne passait. Il y a peut-être que dans l'Antarctique ou encore on a pas trop d'empreintes humaines au niveau sonore, à mon avis. Hein, voilà.
Pierre demande, ce sera ma dernière question très rapidement, Bernie Krauss. Est-ce qu'il est possible de trouver des zones de silence aujourd'hui quelque part sur la planète ?
Yes, but they're very, very few.
Oui, mais très rares. Les gens pensent que les déserts sont silencieux. Mais non, les déserts ne sont pas silencieux du tout. Il y a plein de sons. Mais j'étais une fois dans le Grand Canyon, au bas du Grand Canyon, dans un petit canyon, ce qu'on appelle un petit canyon boîte. Il y avait que c'était tellement tranquille que je pouvais sentir le sang qui me passait dans mes veines.
Oui. Donc très compliqué de trouver le silence, hein, effectivement.
Oui. C'est très très rare.
Merci infiniment Bernie Krauss, on était très heureux de vous accueillir, Thierry Aubin également, avec cette exposition à voir jusqu'au 8 janvier, le Grand Orchestre des Animaux. Et demain mardi, ne manquez pas cette conversation entre Bernie Krauss et Jean-Claude Amezen. Ce sera de 20h à 21h30, toujours à la Fondation Cartier à Paris dans le 14e, à l'occasion de la Nuit des Animaux. Le catalogue de l'exposition, différents ouvrages, tout ça est sur le site legrandorchestredesanimaux.com. Merci beaucoup, merci Michel Zlotowski, merci.
Je vous en prie.
Merci, on termine en français avec vous. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaire sensible avec vous dans quelques minutes, le programme.
Une affaire qui a 60 ans d'âge, je crois qu'on n'est jamais remonté aussi loin. En 1956, l'affaire Vincent Don Henri, deux jeunes alpinistes qui vont sur le Mont Blanc. On n'arrive pas à les sauver. Je ne vous en dis pas plus, hein. L'épilogue, vous le connaîtrez à 15h35. Et je sais que vous serez à l'écoute et nous interviewerons Yves Balu, écrivain et historien. Il a enquêté pendant 2 ans autour de cette affaire.
Eh bien, on vous suit Fabrice, à tout à l'heure.